L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local, en compagnie de Claire, en direct de Laval. Bonjour Claire.
Et oui, bonjour Marie, bonjour tout le monde, en direct de Laval. Il fait frais ce matin, couvrez-vous, mais ça va. C'est mardi, ça fait plaisir.
C'est ça, on est content effectivement d'être en direct. Alors pas sous la neige hein, comme hier, mais effectivement il fait toujours assez froid, le petit point météo. On n'a pas un jour, il faudra vraiment qu'on sorte un petit peu les températures, quelque chose d'un peu plus précis. Mais je crois qu'on est aux alentours de moins 1 et 2 degrés, ce qui donne à peu près... Enfin de toute façon, vous le sentez. Il fait froid, couvrez-vous, voilà. Merci pour ce message. Bon, vous le savez, c'est aussi compliqué en ce moment pour la culture. Et pourtant, les organisateurs du festival Un singe en été à Mayenne gardent espoir. Ils annoncent l'édition de leur prochain festival en juin 2021. On va parler aussi d'un chien pas comme les autres, Oslo. Depuis qu'il est arrivé auprès d'enfants souffrant de troubles autistiques à Laval, ceux-ci se métamorphosent, vous allez l'entendre, puisque Claire, tu as rencontré l'éducatrice spécialisée qui s'en occupe. Et puis en fin d'émission, depuis, ça va être notre feuilleton de cette semaine, on pousse une nouvelle armoire des réserves du Musée des sciences de Laval pour évoquer ce qui constitue une bonne partie des collections, les fossiles d'animaux.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, compliqué de se faire vacciner dans les déserts médicaux.
C'est ce que dénonce l'association des citoyens contre les déserts médicaux en Mayenne. Selon elle, 9 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Or la vaccination n'est réservée pour le moment qu'aux patients qui bénéficient d'une consultation médicale préalable, puis d'une nouvelle consultation pour la signature du consentement. Dans ce cas, difficile voire impossible sans médecin traitant. Pendant le mois de janvier, l'association va déposer un recours gracieux auprès du Premier ministre et sans réponse, elle se dit prête à saisir le Conseil d'État.
Vous avez peut-être croisé ces messages sans les lettres O, B ou A sur les réseaux sociaux.
Et non, ce n'est pas une soudaine pénurie de ces lettres sur les claviers, mais bien une opération Missing Type pour sensibiliser à l'importance du don du sang régulier en enlevant dans les supports de communication, donc entre autres sur les réseaux sociaux, les lettres symbolisant les groupes sanguins. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner tous les patients. À noter que les lieux de collecte sont sécurisés au maximum avec l'application bien sûr des mesures barrières et la réservation préalable pour les dons.
De nouveaux tags sur la façade des locaux du PCF à Laval.
Le Parti communiste français a vu ses locaux à nouveau dégradés ce matin par des tags. Selon le secrétaire départemental Jacques Poirier, l'acte vient d'une volonté politique, probablement de l'extrême droite selon lui. C'est la deuxième attaque de ce genre. Après celle du 28 décembre dernier, deux plaintes ont été déposées. Les responsables du parti réclament une audience au préfet de la Mayenne. Ils envisagent une manifestation ce vendredi à Laval.
Marie, mais qui en veut aux chats de la commune de Dent ?
Eh oui, c'est la question que les habitants se posent, hein, puisque 6 à 8 félins ont été retrouvés empoisonnés depuis le début du mois de décembre dans la commune. Certains en sont morts d'ailleurs. Des plaintes ont été déposées par leurs propriétaires, mais rien de nouveau dans l'enquête pour le moment. La municipalité veut rappeler les gestes civiques et lancer une campagne de stérilisation des chats errants en partenariat avec les associations Château Cats à Château-Gontier et 30 millions d'amis.
26 000 euros récoltés par les Fouléreuses.
Malgré une course à distance à cause de la Covid cette année, l'événement organisé pour lutter contre le cancer du sein a réuni une jolie somme. L'engouement pour la cause a dépassé Laval, se réjouissent les organisateurs. Les 26 000 euros récoltés permettront de financer un programme de recherche en immunothérapie pour le cancer du sein et des ateliers de prévention diététique dans les quartiers et auprès des malades.
Confinement oblige, les vœux se feront en ligne.
Le préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel, et le président du conseil départemental de la Mayenne, Olivier Richefou, présenteront leurs vœux aux habitants sur Internet. Rendez-vous donc demain mercredi à 18h sur Mayenne TV, la web TV du département de la Mayenne sur YouTube.
Direction le Vendée Globe, grosse frayeur pour Maxime Sorel avant le passage du Cap Horn.
Eh oui, son bateau VNB Mayenne s'est couché sur l'eau dans 40 nœuds de vent hier soir. Deux voiles sont même tombées à l'eau que le skipper a réussi tant bien que mal à récupérer. L'incident a fait pas mal de dégâts, notamment sur la voile que Maxime Sorel avait déjà réparée. Malgré la fatigue, le skipper a passé cette nuit le Cap Horn à l'extrême sud du continent américain. Il occupe toujours la 8e position.
Et Marie, après les trois éléphants, autour d'un sage en été d'annoncer sa prochaine édition.
Les organisateurs du festival installé à Mayenne planchent sur l'événement prévu du 25 au 27 juin 2021, et ce malgré les incertitudes sanitaires qui les obligent à réfléchir à plusieurs configurations. Mais Steven Jourdan, le programmateur du festival de musique et d'art de rue, reste confiant.
Alors si tout va bien, on sera sûr de pouvoir avoir un événement avec comme il avait prévu habituellement. On voit qu'en gros, on a une trentaine d'artistes sur le week-end, du vendredi au dimanche, avec nos deux soirées qui étaient prévues habituellement aussi en entrée en concert le vendredi soir et le samedi soir. Et puis la journée du dimanche, plus familiale pour le coup, et plutôt axée art de rue, quelques concerts aussi. Donc ça, on resterait sur la même chose et on espère, on a quand même très bon espoir de pouvoir maintenir ce format-là, étant donné qu'on est sur des jauges qui ne sont pas très élevées aussi. On est sur des jauges à 2000, 2500 personnes par soir, on est loin des 5, 6, 7000 que peuvent avoir d'autres événements en région, donc on a moins d'inquiétude à ce niveau-là. Nous, on pense plutôt pour une piste de format, on va agrandir le site pour le coup du festival, histoire que l'on puisse garder la même jauge en ayant plus d'espacement entre les gens, donc l'idée c'est d'avoir 3 à 4 mètres carrés par personne, histoire qu'on ne soit pas tous tassés, que le masque soit rendu obligatoire dans certaines zones, donc en gros toutes les zones qui sont devant les concerts, où là pour le coup il est plus complexe d'avoir les mesures barrières et puis surtout la distanciation physique, on va imposer le masque, et on aura des zones qui elles seront sans masque, donc principalement des zones assises dans lesquelles les gens pourront se poser, discuter beaucoup plus facilement. En termes de programmation et esthétiquement, on est sur un festival qu'on définit comme quelque chose de plutôt fusion, donc on n'est pas vraiment sur de la musique world, on n'est pas que sur la musique actuelle, on essaie de trouver des artistes qui font des ponts entre ces genres-là, on va avoir des artistes qui font de l'électro-jazz, on va avoir des artistes qui font de la pop mélangée avec du rock ou du jazz aussi, des artistes qui sont en règle générale peu connus, hein, qui n'ont pas sorti d'album ou qui sont à leur tout début. Donc on essaie de maintenir ce cap-là qui nous différencie aussi des autres événements du territoire et qui nous intéresse aussi de défendre. La complexité vient surtout du principe de ne pas savoir exactement sur quel pied danser et de pas savoir sur quel format on va pouvoir être. Donc très clairement, faire un concert de musique électronique par exemple sur un format assis, ça me paraît compliqué, alors que normalement on en fait en format debout. Donc pour le coup, on est quand même obligé de réfléchir à la typologie de programmation, mais on va quand même prendre le risque de programmer des choses qui normalement sont sur du debout et qui passeraient très mal en assis, parce que je pense que c'est important aussi de croire en l'avenir, on va dire. C'est indispensable, je pense. Enfin, du coup, si on commence à baisser les bras maintenant, il ne se passera rien en 2021 et que, quoi qu'il arrive, on arrivera à adapter. Là, pour l'instant, on est sur ce plan A, là, en tout cas. On a prévu d'autres plans aussi et qu'on adaptera au fur et à mesure et on s'adaptera, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin, si on nous donne la possibilité de nous adapter, évidemment.
Les premiers noms devraient être annoncés à la fin du mois. Pour cette 7e édition, un quart de la programmation sera dédiée aux artistes prévus en 2020. Les enfants autistes de la SATED à Laval peuvent compter sur Oslo, un chien d'accompagnement social. Partons à leur rencontre juste après avoir écouté Papillon de Voyou.
Mon cœur qui se lève. des millions d'euros, papillons dans cœur, souvent seul en vie de toi. Et bientôt les fleurs se referment, papillon ne peut plus se poser, fatigué d'envoyer ses ailes au vent fatigué de l'été. Papillon fait donc une escale entre mes bras impatientés. Toutes les fleurs, c'est moi la plus jalouse quand tu te déposes sur des millions de roses, papillon mon cœur, souvent seul en vie de toi.
C'était Voyou sur l'autre radio avec son morceau Papillon tout en légèreté. Vous écoutez donc votre quotidienne tous les midis, l'agité du local. Et c'est désormais l'heure de l'interview avec toi Claire. Puisqu'on en parlait en tout début d'émission, tu as pu rencontrer un chien pas comme les autres.
Et oui, je suis allée à la remise du chèque pour la formation de l'éducatrice spécialisée Morgane Luchet pour un chien d'accompagnement social Oslo. On l'écoute présenter le chien et surtout présenter son projet.
Oslo, c'est un Golden Retriever, donc c'est un chien à poil long, qui ressemble un peu à un Labrador. Voilà, il est couleur sable, donc beige clair. Voilà, et celui-ci est assez imposant. Il fait à peu près 40 kilos, donc il a 2 ans et demi. C'est la famille d'accueil du chien, en fait, qui choisit le nom en général. Souvent, on donne des noms assez simples à dire, parce que justement, en fait, une personne qui a un handicap, et au niveau du verbal, justement, c'est très difficile de dire un nom compliqué. Il est né en Mayenne, Oslo, c'est rigolo, j'ai su ça, en fait, à la fin de la formation. Il est né à Évron. Voilà, il a fait toute sa formation donc, à Alençon et au Mans, mais là il revient en Mayenne, donc c'est chouette. Donc je suis Morgane Nouchet, donc je suis éducatrice spécialisée depuis 2 ans, avant j'étais aide médico-psychologique. Ça fait 6 ans et demi, bientôt 7 ans, je travaille à la 7 aide de Laval, donc section autisme et troubles envahissants du développement. Alors il y a 10 ans en fait j'ai fait un stage auprès d'un chien qui s'appelle Buffy, qui travaillait pour le CCAS de Laval. Et ça a duré 3 mois, et en fait, j'étais vraiment constamment avec ce chien, et je me suis rendu compte de tous les bienfaits que ça apportait, dans le lien social, dans l'apaisement, voilà, dans les apprentissages ou dans les activités. Mais surtout, ouais, dans le lien que ça peut avoir vraiment avec la citoyenneté, en fait, les gens qui sont vraiment en dehors d'un établissement. Ouais. Donc je me suis dit, un jour, quand je serai dans un établissement depuis longtemps, ou quand je travaillerai auprès d'un public, et que je sentirai que c'est le moment, je pense que je porterai ce projet-là parce que je trouve que ça a vraiment beaucoup de choses à apporter. Au bout de 5 ans, là, à la 7 aide, je me suis dit « Ok, en fait, là, je pense qu'un chien, ça pourrait être vraiment top. » J'ai cherché, donc rencontré des gens qui avaient déjà eu ce projet-là. Voilà, j'en ai parlé à mes collègues, j'en ai parlé à ma direction. Voilà, quand tout le monde était en accord et quand tout le monde était assez enthousiaste de ça, j'ai commencé à mettre, à passer la seconde. Et donc là, en fait, je savais que c'était un projet coûteux. Donc j'ai commencé à chercher des fonds pour ça. Il n'y a pas d'autres collègues en fait, qui ont été intéressés par conduire ce projet-là avec moi. Je pense que voilà, ce n'était pas le moment pour elles. Là, il y a peut-être une ou deux collègues qui se disent « Bon, bah ouais, si, finalement, c'est chouette et j'aimerais bien faire ça ou ça. » Ce n'est pas grave. Plus tard, en fait, elles pourront être formées quand Oslo sera là depuis un moment. La formation avec le chien, donc, c'est vraiment pour connaître ce que lui connaît déjà, donc les commandes. Donc apprendre à donner la marche en laisse. En fait, un chien d'assistance ne tire pas en laisse. Voilà, il marche la tête à hauteur de notre genou à nous. Voilà, qui ne tire pas et que l'enfant ne tombe pas, par exemple. Donc ça, c'est une commande particulière. C'est aussi une méthode d'éducation particulière où, comme je disais tout à l'heure, on renforce le bien, ce que le chien fait de bien avec une friandise, des croquettes. On renforce avec quelque chose qu'il aime beaucoup. Mais ça peut être aussi une caresse ou un ton de voix très aigu qui peut lui faire du bien. Oslo ? Oui. Là, on est un peu entre deux aujourd'hui. Ça fait 3 semaines qu'on se connaît, en fait. Déjà, avec certains enfants, il se passe beaucoup de choses, ouais, donc c'est chouette. Donc il vient au travail avec moi, mais sinon il est à la maison, chez moi, avec mon conjoint et ma fille. Voilà, quand il a sa petite cape, il sait qu'il est au travail aussi. Et quand je l'enlève, eh ben voilà, c'est plus détendu. Poslo donc part de la maison avec moi en voiture. Quand il arrive ici, il va déposer ses affaires avec les miennes, en fait, dans un petit bureau derrière la secrétaire. Voilà, et après il dit bonjour aux collègues. Et ensuite, les enfants arrivent et il va souvent dire bonjour aux enfants, en fait, les uns après les autres. Après, il va faire son petit tour dehors parce qu'il a besoin, là, déjà de courir, de jouer un petit peu et d'aller faire ses besoins. Et ensuite, il revient, donc il peut faire une activité brossage. Là, on touche aux soins, donc souvent, voilà, les enfants qui peuvent avoir des difficultés pour l'hygiène, le soin, enfin, rien que se brosser les cheveux. Enfin, voilà, on parle beaucoup du rapport au corps à ce moment-là, de la douceur, et que c'est important, en fait, de se coiffer, de se brosser, etc. Donc voilà, ça peut être après une balade, en laisse ou pas, ou justement dans le jardin, sans laisse, un moment de jeu, ça peut être juste un moment de caresse, en fait, où le chien, voilà, va être assis ou couché près de l'enfant, et l'enfant va juste être dans le sensoriel à ce moment-là, et pouvoir être en contact avec le chien au sol. Et ça, c'est des super moments, parce que c'est très apaisant, ça leur apporte beaucoup de douceur. Il y a un enfant aujourd'hui qui s'est endormi avec Oslo, en fait, donc c'était vraiment chouette. Il y a un enfant avec qui voilà, on n'avait pas forcément d'attente particulière, et là, il se passe quelque chose avec Oslo. Donc même, ils ont juste besoin de se regarder, en fait, et voilà, ils savent tous les deux ce qu'ils doivent faire. Même moi, là, j'ai plus à intervenir, en fait. Voilà, c'est un enfant qui va pas très très bien en ce moment, mais du coup, là, qui est vraiment en lien avec lui, qui est posé dans ce qu'il dit et dans ses gestes avec Oslo, donc c'est super. Un enfant qui a peur des soins et d'aller chez le médecin, en fait, ça peut être très intéressant d'aller chez le vétérinaire, d'accompagner le chien, voilà, lui montrer que bah, lui aussi, on regarde ses oreilles, lui aussi, on regarde dans sa bouche, voilà, on lui fait des vaccins... On le pèse, voilà. Je pense qu'il arrive au bon moment, en effet, parce que ça commence à être difficile, ouais, le confinement pour les enfants, même pour nous, hein, les éducateurs. Ça permet de relativiser un peu et d'avoir quelque chose de positif, voilà, avant les vacances de Noël. C'est ça. N'importe quelle personne peut faire la formation de conduite d'un chien, d'assistance et dit d'accompagnement social. On peut très bien être animateur en maison de retraite, être soignant en maison de retraite, ou... moniteur éducateur, AMP, AES, maintenant en IME. Ça peut être aussi dans un lycée. Maintenant, il y a des chiens d'assistance de réussite scolaire. Donc ça peut être voilà, une personne qui a envie, en tout cas, de monter le projet dans l'établissement et qui voit beaucoup, beaucoup de bienfaits et des objectifs très concrets.
Cette formation est assez coûteuse. Le club service Kiwanis participe à son financement et a remis donc ce fameux chèque. On écoute son président.
Je suis Loïc Lucas, le président du club service Kiwanis. Nous sommes une association loi 1901 de gens bénévoles et motivés qui récoltons des fonds à longueur d'année pour distribuer à des enfants en situation difficile de handicap. C'est le but de notre association, qui est une association mondiale, mais il y en a une pour la Mayenne qui est à Laval. Nous sommes 21 membres bénévoles et nous récoltons des fonds toute l'année que nous redistribuons. Notre cible à nous, parce qu'on pourrait aider beaucoup de gens, mais c'est les enfants. Notre devise internationale, c'est servir les enfants du monde. Et nous aidons une quinzaine d'associations strictement mayennaises. Et pourquoi ? Parce qu'on veut être en contact avec les associations, les voir, les rencontrer, définir des projets avec eux et leur venir en aide. Et on distribue entre 30 et 40 000 euros par an. On pourrait effectivement, nous aussi, envoyer des chèques à des grandes causes nationales, mais on ne sait pas trop comment c'est fait et ce que ça devient. Et nous, on veut être en contact direct avec le terrain et avec les associations mayennaises.
Une association mayennaise, c'est le cas de l'ADAPEI 53, qui œuvre pour l'autonomie des personnes en situation de handicap. Elle gère notamment la SATED, structure qui accueille les jeunes atteints d'autisme ou d'un trouble du spectre autistique. La directrice de la SATED, Céline Loison, et la présidente de l'association ADAPEI 53, Martine Évrard, nous expliquent l'évidence de ce projet.
On a abouti à un projet écrit par Morgane et qui a été aussi porté par l'association, puisqu'il y a eu des financements autour d'une opération brioche au niveau de l'association pour pouvoir aider à faire émerger ce projet, en fait.
Madame Évrard, vous étiez là au début. Ah, oui. Était-il évident de soutenir le projet ?
C'était tout à fait évident. Et quand, en général, pour les opérations comme ça, quand il y a plusieurs projets et qu'on doit en choisir qu'un, on ne s'est même pas posé la question. Ça ne pouvait être qu'encourageant d'aider quelqu'un qui avait autant de motivation que ce que Morgane avait. Là, c'est l'aboutissement d'avoir le chien dans l'établissement. Même pour nous, adultes, ce projet, il est avec nous. On l'a depuis deux ans et demi, oui, au moins.
Les enfants font plus attention aussi dans leurs attitudes quand ils traversent le couloir. Il y a des enfants, l'exemple d'une petite fille qui a une difficulté motrice et qui descend l'escalier parce que Oslo est en bas de l'escalier. Ça, il y a quelques semaines, moi, je ne le voyais pas avec cette même petite fille. Donc, il est vraiment aussi un stimulateur de développement de compétences. Voilà. Et puis pour d'autres, et ben c'est aussi cet apaisement, ce lâcher prise que les enfants ne s'accordent pas toujours du fait de leurs troubles. C'est un vrai collègue, il participe à nos réunions. Parfois il éternue pendant les réunions, je pense qu'il donne son avis. Mais non, c'est un vrai collègue et je pense que même pour les professionnels, alors là on n'a pas assez de recul, mais je pense qu'après une journée bien remplie et compliquée en termes d'émotion et de prise en charge, parfois physique des enfants, je pense qu'il apportera aussi, au bout du compte, aux professionnels qui encadrent les enfants, en fait. Après, voilà, comme tout projet, il y a des aléas et des étapes. Il faut s'habituer. C'est vrai qu'il y a un peu plus de poils à nettoyer dans le bâtiment. Mais voilà, chacun y met un petit peu du sien. Et je pense que ça va être une belle réussite, au bout du compte.
Par rapport à tous les bénévoles qui ont œuvré, nous aussi, dans l'association, pour récolter des fonds pour Oslo, il y a vraiment une motivation, c'est de se dire, finalement, on est bénévole, on a fait quelque chose, mais il y a un résultat. Même si eux ne sont pas là dans la structure au quotidien, je crois que depuis qu'on sait que Morgane va l'avoir, que... On a vraiment suivi et on a dans un petit coin de notre tête que même pour nous, il y a un petit plus, même si on n'est pas là dans la structure.
Il est très sollicité, Oslo aussi, pour participer effectivement à des réunions de présentation et tout ça. Mais voilà, ça va aussi s'apaiser, c'est tout nouveau, donc il y a beaucoup de demandes en ce moment. Mais vraiment un beau projet humain qui correspond en plus, je trouve, aux valeurs associatives, d'être à la fois dans l'innovation des prises en charge et dans l'humanisme, en fait, auprès des personnes.
On sent que la médiation animale, d'un seul coup, a pris une importance, qui a eu une prise de conscience qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et j'ai des administrateurs qui se mettent à lire des choses sur la médiation animale. Et je trouve ça très bien. Alors, pas forcément pour un chien, mais par exemple pour le femme. Si on ne pourrait pas avoir un chat, deux chats, pour avoir une présence animale qui correspondrait plus à la population qui est accueilli aux femmes.
Il est possible que la réflexion émane à la fois de l'arrivée d'Oslo, en se disant c'est possible de créer un projet de médiation animale au sein de la DAPU 53. Et je pense que pour le foyer d'accueil médicalisé qui a été ouvert pendant toute la période Covid et qui a gardé ses résidents malheureusement confinés sans contact avec leur famille pendant des mois, je pense qu'effectivement ces deux axes se croisent aujourd'hui pour se dire qu'il faut peut-être une présence autre que nous, salariés et professionnels de l'accompagnement, pour avoir ce petit plus d'humanité aussi dans la prise en charge, quoi.
Vous pouvez suivre les aventures de Morgane et Oslo sur leur compte Instagram Entre Chiens et Nous, une façon de voir quotidiennement les bienfaits d'un animal auprès des personnes atteintes de handicap et qui peut-être éveiller certaines vocations.
Merci beaucoup Claire, on retient en tout cas donc ce compte Instagram Entre Chiens et Nous, c'est facile en plus à retenir, à taper, donc pour voir un petit peu à quoi ressemble Oslo et puis ce qu'il permet au quotidien. Merci beaucoup pour cette interview Claire, et puis nous on se retrouve d'ici quelques minutes, juste le temps d'écouter Lola March avec son morceau Only for a Moment.
Lost and found. better days are coming, I can feel it. All my lies are safe beside you now. And I try, oh I try, to pretend that I'm fine. Tell me why, oh tell me why. I need you by my side. And suddenly I'm bored, I'm dancing in the dark, counting all the billboards and the city lights. I keep on my affection in a paper cup.
Moment de Lola March avec mon magnifique accent anglais. Encore une fois, ça n'a pas changé. Hein. En 2021, je ne parle toujours pas mieux anglais. Désolée pour vos oreilles délicates. Mais en tout cas, on va reprendre nos petites habitudes prises juste avant Noël. Un jour, une histoire, celle d'un objet autour du monde qui illustre justement cette mondialisation. Une chronique assurée quotidiennement par Swazik. Bonjour Swazik, alors on reprend nos bonnes habitudes d'avant les vacances avec cette chronique des objets pour un monde, mais d'abord avant tout, bonne année.
Eh bien bonjour Marie et meilleurs vœux à vous également pour cette nouvelle année, qu'on espère tous meilleure que la précédente, bien évidemment. Alors peut-être Marie, avez-vous eu sous le sapin cette année quelques friandises bien revigorantes dont on a bien besoin et dont peut-être du chewing-gum? Eh bien, savez-vous que ce chewing-gum fait partie du grand magasin du monde ? Mais remontons l'histoire. Alors, il faut savoir que du fond des temps au 19e siècle, les Amérindiens ont toujours mâché de la résine d'épicéa. Et c'est une pratique qui s'est installée très vite chez les colons européens. Mais c'est en 1869 que l'histoire commence vraiment. En effet, cette année-là, le général mexicain Santa Anna est renversé par la Révolution. Il s'exile à New York en emmenant dans ses cartons 250 kilos de résine, qu'il demande à l'ingénieur Thomas Adams de transformer en pneus dont la vente devait permettre de financer la contre-révolution mexicaine. Malheureusement pour le général, mais heureusement pour le reste du monde, Thomas Adams échoue, mais a l'idée géniale d'en faire une pâte à mâcher. Le premier chewing-gum est né. Toutefois, l'affaire n'est pas gagnée, car en cette fin de 19e siècle, la mastication du chewing-gum reste considérée comme un vice. Alors, pour convaincre les réticents, Adams va mettre au point un véritable matraquage publicitaire. Panneaux surdimensionnés clignotants, déjà, vous vous rendez compte, à New York. Recours aux personnalités célèbres, installation de distributeurs automatiques dans les lieux publics, dons de millions de tablettes aux jeunes pour leur en donner le goût, publicité sur d'hypothétiques vertus curatives, etc., etc. Mais ce sont surtout les GI qui font du chewing-gum l'emblème joyeuse de la liberté et de la prospérité en le distribuant partout où ils débarquent, bien sûr. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, les pays industrialisés vont développer aussi leur propre marque parce que ça fait du business. En France, ce sera Hollywood Chewing Gum qui va incarner la fraîcheur de vivre, rappelons-nous, puis Malabar, ciblant davantage les enfants avec leur fameux décalcomanie. Dans les années 80, Chewing Gum et Bubble Gum, désormais synthétiques, connaîtront un succès phénoménal dans tous les pays émergents et Bubble Gum et Chewing Gum deviennent véritablement les emblèmes de la mondialisation heureuse. Mais là encore, l'histoire nous joue des tours. En effet, Les forêts d'arbres à résine de gomme à mâcher sont aujourd'hui menacées par la surexploitation du bois. La résine est, elle, en production beaucoup plus faible, mais continue néanmoins d'être exportée vers le Japon, où les consommateurs sont prêts à payer un prix plus élevé pour consommer une gomme naturelle. Et le paradoxe, Marie, c'est que la survie aujourd'hui de ces forêts surexploitées pour leur bois au Mexique dépend de la fidélité des amateurs de chewing-gum naturel du Japon. Le monde, Marie, est décidément bien petit.
Merci beaucoup, Swazik. Si vous voulez réécouter cette chronique ou que vous avez manqué les premières diffusées avant Noël, elles sont à retrouver sur notre site l'autreradio.fr. Dans la liste des chroniques, il vous suffit de cliquer sur « Des objets pour un monde ». Cette semaine, vous le savez, on plonge dans les endroits inaccessibles du musée des sciences de Laval, en l'occurrence sa réserve. Entre 130 000 et 150 000 pièces y sont conservées, et parmi elles, la moitié sont des fossiles, surtout des fossiles d'animaux conservés depuis des milliers d'années, avec une collection plutôt locale, explique Roch-Alexandre Benoît, l'assistant de conservation du patrimoine au musée des sciences.
Alors on peut retrouver beaucoup de choses, une grande partie qui vient de la Mayenne à la base, donc ça va être des groupes comme les brachiopodes, donc c'est des choses qui ressemblent un petit peu à des bivalves, on va dire les moules et les huîtres, mais c'est pas le même groupe, ça y ressemble seulement. Mais là ça se trouve encore actuellement dans les mers assez profondes, mais là les spécimens qu'on a nous en fossiles, ça peut aller jusqu'à 300 et quelques millions d'années. Dans celui-là il y en a, dans celui derrière il y en a un peu partout des brachiopodes. Alors là c'est un meuble où on a essayé de mettre toutes les ammonites qu'on avait, enfin un maximum d'ammonites qu'on avait en collection, parce que clairement ça passait pas tout ici, et de vraiment les organiser par étage et plus ou moins par groupe. Donc là par exemple, donc on a des ammonites vraiment là qui viennent de l'Alénien. Là on a essayé d'extraire tout ce qui était plutôt nautile, qui était mélangé finalement avec le reste des ammonites, mais qui sont un groupe un peu voisin des ammonites. C'est pas tout à fait des ammonites, mais voilà, visuellement ça y ressemble beaucoup. La différence en vrai est assez simple une fois qu'on la connaît. En gros ça va être sur une structure, complètement. Donc là si on prend une ammonite, on regarde en fait sur la coquille, et on va voir là ici en fait comme un découpage en fait qui ressemble à une feuille. Quelque chose de très très découpé, très marqué. Et en fait ça va être la démarcation d'une loge dans une ammonite. Mais en fait, dans un nautile, il va y avoir la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir quelque chose de très très découpé, ça va être quelque chose de très droit, comme ça, très linéaire. Et donc ça c'est un moyen sûr de savoir si on a affaire à un nautile ou une ammonite. Après les nautiles, c'est pas fréquent. C'est pour en trouver, nos professeurs sur certains sites nous disaient en gros vous allez trouver un nautile pour 1000 ammonites. Donc après ça dépend vraiment des endroits, mais globalement c'est vrai que c'est beaucoup plus rare que les ammonites. Bah, les nautiles, en fait, ça existe encore maintenant, mais c'est vrai que c'est pas très très fréquent d'en voir. C'est même quasiment rare, enfin vraiment impossible. Les ammonites, elles ont complètement disparu, mais à l'époque, c'était un groupe qui était très très présent. Donc l'époque, c'est le Mésozoïque, donc c'est entre 250 millions d'années, à peu près 230 millions d'années, on va dire, jusqu'à 66 millions d'années. Mais après 66 millions d'années, il n'y a plus du tout d'ammonites. Au moins, on sait que voilà, il y avait ces choses-là qui existaient dans les mers, et voir toute la variation de forme en fait que ça a pu avoir. Après les ammonites, c'est un groupe qui est très utile pour la datation aussi. Parce que vu qu'il y a justement un grand nombre d'espèces, et généralement une espèce va être présente sur un temps entre guillemets assez court, à l'échelle géologique, donc ça va être proche de 100 000 ans, mais en fait c'est dès qu'on va retrouver cette espèce-là, on sait qu'on est dans cette tranche d'âge-là.
Et donc comment dater un fossile? Une question pas simple, pas évidente en tout cas de l'extérieur, et ce sera justement le sujet de l'épisode de demain, à retrouver à la même heure dans cette émission. Et on termine justement avec notre habituelle rubrique initiative pour nous mettre l'eau à la bouche des fèves locales et féministes dans la galette des rois, Claire.
Et oui, à Mayenne, on retrouve cette année dans la boulangerie Renaud des fèves qui mettent à l'honneur les femmes. Chaque année, la boulangerie propose des fèves originales et cette année, c'est l'artiste mayonnaise Lollipop Tattoo qui a dessiné les héroïnes du confinement. Les boulangères, pompières, éboueuses, infirmières et 5 autres fèves sont à découvrir dans les galettes. En plus d'être dessinées par une artiste mayonnaise, les fèves ont été fabriquées en France par une entreprise grenobloise, de quoi se régaler et soutenir les commerces français.
Et puis on le sait, les lieux culturels restent fermés jusqu'au 7 janvier, ce jeudi, et peut-être même au-delà.
Mais les musées maintiennent le lien avec les plus curieux, notamment le Musée des sciences de Laval. L'exposition Daniel et Pauline Eulert, chasseurs de fossiles, aurait dû ouvrir le 15 décembre, mais le musée a trouvé de quoi faire patienter ses visiteurs. Sur leur page Instagram et Facebook, pour découvrir les travaux du couple paléontologue lavallois du 19e siècle, vous pourrez retrouver une dent de lion, retrouvée dans une carrière à Sainte-Suzanne, des brachiopodes et même le marteau ayant appartenu à Daniel Eulert. Le tout sans trop de détails pour pouvoir apprécier la visite guidée qui sera mise en place lors de la réouverture du musée. Rendez-vous donc sur leur compte Musée des sciences de Laval sur Instagram et Facebook.
Et justement, c'est directement en lien en fait avec le feuilleton de cette semaine, hein, puisque dans les réserves, justement, enfin, on va prendre plutôt dans l'autre sens, on va dire que les expositions et ce qu'on peut voir, c'est une toute petite partie, une infime petite partie des, on l'a compris, très importantes réserves du musée qui sont en dessous et qu'on vous fait découvrir cette semaine. Merci beaucoup Claire.
Merci Marie, merci tout le monde.
Et donc on rappelle aussi hein, l'autre radio, nous aussi nous sommes sur Facebook, sur Twitter, n'hésitez pas à nous suivre et à laisser un petit message sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. Puisque oui, ça y est, c'est déjà la fin de notre émission L'Agité du local. Merci Claire d'avoir été avec nous de Laval. À suivre à 19h les rendez-vous de l'APES sur les établis participatifs. À 20h ce sera The Voice of Cassandre et à 21h pause classique. Et nous, on se retrouve demain à 12h15, comme tous les jours du lundi au vendredi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.